I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et comme d'habitude, on se retrouve de nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et quel invité ? Ardent défenseur du patrimoine cinématographique, il est programmateur au marché international du film classique du Festival Lumière de Lyon et il travaille à la programmation de Cannes Classics au Festival de Cannes donc. Il est également co-auteur du récent livre Mario Bava, le magicien des couleurs. C'est Gérald Duchossois. Salut Gérald.
Salut Thibaut.
Comment ça va ?
Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est ma fête, donc c'est le jour parfait pour enregistrer une émission ensemble.
Exactement. Le timing est beau. C'est ta fête. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode d'Année Lumière.
Ça va... Merci à toi, on va parler cinéma, c'est toujours agréable.
C'est toujours effectivement un plaisir. Alors au programme de cet épisode un peu spécial, puisque c'est le dernier de la première saison d'Année Lumière, et oui déjà, au programme de cet épisode, la naissance du nouvel Hollywood, le samouraï du duo Delon-Melville, un cocktail préparé par Carlos Saura, et un tour du monde bien rempli. Bref, l'année 1967, c'est parti. You're just too good. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, the love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Can't Take My Eyes Off of You, chanté par Frankie Valli and the Four Seasons. On écoutait ça en 1967. Mai 67, c'est aussi l'année de la première transplantation cardiaque, de la guerre des six jours et du prototype de l'IMAX présenté à l'exposition universelle de Montréal cette année-là. Du côté ciné, 67, c'est la palme d'or pour le blow-up de Michelangelo Antonioni, pourtant sorti fin 66 aux USA, allez comprendre. Et l'année de l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la taxe spéciale additionnelle sur les places de cinéma. Alors, c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais qui est pourtant essentiel pour le cinéma français, encore aujourd'hui en 2019. Et toi, Gérald, tu voulais juste dire un mot sur cette taxe spéciale additionnelle. Qu'est-ce que c'est vraiment, Gérald, cette taxe spéciale additionnelle si importante ?
Alors, c'est ce qui permet aux films français et au cinéma français d'avoir une véritable puissance à la fois en France et puis à l'international aussi, puisque pour chaque billet acheté dans n'importe quel cinéma, une partie du prix du billet, je crois que c'est 5,9% ou 6%, ouais. Va en fait dans les caisses du CNC, qui lui-même, après, alimente certains fonds à la fois de création et puis aussi en matière de patrimoine qui finance une partie des restaurations, qui finance aussi sur dossier des ressorties en DVD Blu-ray.
Donc c'est une partie du billet de cinéma que chacun paye quand il va au cinéma et qui revient dans les caisses du CNC pour alimenter le cinéma français et le patrimoine du cinéma français véritablement.
Oui, c'est aussi pour ça qu'on est vu en France comme les grands défenseurs du cinéma et comme l'un des grands pays de cinéma. Ce qui est le cas aussi bien en termes de production ou aussi qu'en termes de financement, ce qui est vrai puisque ça nous donne un rayonnement international assez incroyable.
1967, c'est aussi celle d'un tremblement de terre dans le cinéma américain, un séisme dont on ressent encore les effets aujourd'hui, un événement qui est au cœur de notre premier thème. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Simon and Garfunkel. La musique du film Le Lauréat, réalisé par Mike Nichols avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft. Pourquoi cette musique ? Tout simplement parce que ce premier thème va réunir deux films, Le Lauréat, donc réalisé par Mike Nichols, et Bonnie and Clyde, réalisé par Arthur Penn, avec Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman. Deux films réunis ici, deux films électrochocs en cette année 1967 aux États-Unis. Et pour lancer ce thème, j'ai simplement envie de poser la question à toi, Gérald. Pourquoi ces films-là, en 67, sont-ils des électrochocs ? Pourquoi bouleversent-ils et le cinéma américain et la société américaine en cette année 67 ?
Alors effectivement, ils vont bouleverser à la fois commercialement, puisque ce sont de grands, grands succès commerciaux. Ils sont dans les premiers, je crois que Le Lauréat est numéro 1 du box-office américain et canadien. Mm-hmm. Et Bonnie and Clyde est quatrième, si je me souviens bien.
Ah, il marche donc beaucoup, c'est un grand succès, ouais.
Ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des grands films à la fois populaires, artistiquement aboutis, avec une véritable volonté, même si les auteurs s'en défendent, il y a quand même une volonté politique très très forte derrière les deux. En ce qui concerne Bonnie and Clyde, la volonté politique, c'est de s'adresser au peuple américain et de dresser un constat de la crise à la fois sociale, politique et aussi celle de la guerre, du Vietnam. Mm-hmm. Et en ce qui concerne Le Lauréat, c'est vraiment une épopée à la fois comique, vendue comme telle, et aussi existentialiste, puisqu'on est véritablement dans une recherche d'un soi plus profond. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'environnement qui nous entoure et toute cette société de consommation pour aller au-delà.
Ah, donc, le terme existentialiste, effectivement, c'est ce qui les réunit. Tu as ces deux films, comme tu l'as dit, qui se questionnent beaucoup sur... c'est quoi notre place dans la société ? C'est où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Dans quelle étagère, entre guillemets ? Au même moment, ces deux films-là sortent et posent ces questions-là, ce qui est, si on peut remettre un contexte historique quand même aux États-Unis à ce moment-là, quand même une anomalie. C'est des films qui sont des anomalies, parce que le cinéma américain dans les années 60, c'est plutôt des films relativement... ou très classique, assez léger, ou alors où on a le héros qui peut être bien défini, avec des happy ends, avec des trucs relativement classiques. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le cinéma, dans les années 60, en tout cas, marche de moins en moins bien, parce qu'il y a la télévision qui arrive et qui ponctionne, qui va prendre effectivement le public du cinéma, qui est lassé de ces histoires toujours les mêmes, qui finissent bien et des happy ends, etc., et qui, ce public-là va aller devant la télévision. Et du coup, le cinéma américain en 67 est bien mal en point véritablement.
Il y a ce grand public qui effectivement s'est détaché du cinéma, le grand spectacle tel qu'on l'entendait. Donc il y a ce public de jeunes qui est à capter. Ouais. Ce public de jeunes, le problème, c'est qu'on ne parle pas à la fois de ses problèmes, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, et on s'adresse mal à lui. Alors, si on veut rapprocher les deux films sur ces thèmes, pour Bonnie and Clyde, on a une épopée picaresque qui est une histoire d'amour, et avec beaucoup de violence. Et ça, c'est l'attrait principal, puisque ce sont beaucoup de jeunes qui sont allés voir le film. Et oui, c'est ça qui est assez génial, et donc c'est l'aspect vendeur. Enfin, ce cinéma-là, pré-Nouvelle Hollywood, va attirer le public. On met une dose de violence très très forte. Je pense qu'il y a aussi une grande inspiration d'Arthur Penn venant de la télévision, parce que Arthur Penn était un des réalisateurs, comme Sidney Lumet, qui lui aussi est un génie, venait de la télévision américaine. Dans les années 50, en fait, comme le médium était tout neuf, ils avaient une grande part de liberté. Il y avait beaucoup beaucoup de trouvailles, à la fois techniques et narratives, qu'ils ont après appliquées dans leur cinéma. Et ça, c'est assez génial de voir l'influence de la télévision arriver au cinéma, et que la télévision serve à imposer des auteurs qui vont s'en servir pour exploiter des thèmes. Bonnie and Clyde, bon, évidemment, il y a cette violence dont on a parlé. Et puis Mike Nichols, donc avec Le Lauréat, le réalisateur, présente une espèce de bonbon humoristique assez doux, et en fait est beaucoup plus corrosif que ça. Et on a des auteurs qui amènent en fait un type d'écriture et aussi une force visuelle totalement délirante.
Tu l'as dit, effectivement, là tu l'as cité, tu parles de violence, tu parles de d'un aspect corrosif, de ces bonbons, de doux amer, ces films qui sont entre deux eaux, effectivement, parce que Le Lauréat de Nichols et Bonnie and Clyde d'Arthur Penn vont être deux films, on en a parlé, tu l'as dit, qui vont briser quand même pas mal de tabous à l'époque, qui vont être des choses qui n'étaient pas monnaie courante au cinéma, qui vont être des tabous. Donc on a parlé de la violence, la représentation de la violence, en tout cas dans Bonnie and Clyde, elle est un peu inédite, elle est un peu, oui. un peu, voilà, un peu rare, et elle choque à l'époque parce qu'on voit des... On voit des corps se prendre des balles, on voit du sang, on voit des la fameuse scène finale est emblématique à ce titre-là, parce qu'effectivement on voit Bonnie and Clyde, spoiler alert, mais bon, l'histoire nous l'aura appris, qui effectivement décède sous des balles, des centaines, des dizaines, des centaines de balles, et on les voit véritablement prendre ces balles-là, et le lauréat va briser d'autres tabous, peut-être plus moraux, peut-être plus narratifs, thématiques, peut-être en quittant cette idée de happy end, notamment avec ce plan sublime final où on rompt avec cette happy end, où on met un point d'interrogation à la fin de cette happy end. Donc c'est deux films qui vont briser des tabous à plein de niveaux. Et pourquoi on en parle aussi en 1967, tu l'as rapidement dit là, c'est que ça va être deux films qui sont communément, on va dire, établis comme deux films fondateurs, en tout cas, de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui vont en tout cas signer une sorte de prénaissance, où ils vont poser en germe ce qu'on appelle du coup le Nouvel Hollywood. Alors le Nouvel Hollywood, rapidement, ça va être une période, on va en parler bien sûr, hein, qu'on pourrait... placé de 1967 donc jusqu'au début des années 80, une période qui verra éclore et s'exprimer des réalisateurs assez jeunes et talentueux comme Francis Ford Coppola, William Friedkin, Peter Bogdanovich, Arthur Penn, Stanley Kubrick, John Cassavetes, Robert Altman, et bien sûr une génération plus jeune avec De Palma, Scorsese, George Lucas et même Steven Spielberg, qui vont du coup donner des films de grande qualité, et tu en as parlé, à l'identité propre et assez puissante, des films comme Taxi Driver, L'Exorciste, Les Moissons du Ciel, Carrie, Manhattan, Easy Rider, American Graffiti, Apocalypse Now, Orange Mécanique, bref, tous ces noms, tous ces titres, on les connaît tous, ils sont cultes, mais au-delà de ces grands noms et de ces grands films, moi j'ai envie de te poser la question, Gérald, c'est quoi le Nouvel Hollywood? Comment tu le définirais, toi, au-delà de ces noms et de ces grands films qu'on connaît
tous.
Il y a une
nouvelle inspiration, effectivement, de tous ces auteurs qui sont soutenus par des petites productions et distribués par des grands studios. En 1948, quand c'est la Cour suprême qui a cassé le monopole des studios, puisque les studios avaient à la fois la production, la distribution et l'exploitation. Donc, en fait, ils maîtrisaient toute la chaîne. Le fait de casser l'appareil de production sur toute la chaîne qui a permis à de nombreux talents de travailler.
De changer le système, déjà. Ça a changé le système fondamentalement.
Ce changement juridique a permis un changement de système et des auteurs ou des techniciens qui travaillaient au sein de systèmes bien établis et de studios qui étaient quand même des espèces de nids nourriciers ont forcé de nombreux techniciens et réalisateurs de talent à devenir freelance, donc du coup à aller de studio en studio. Et puis le public familial s'est détaché de la télévision du grand écran pour aller vers la télévision. Oui. Donc ça c'était un problème et il fallait capter ce public de jeunes. Et donc ce public de jeunes, il n'était plus très cinéphile mais il était très très impliqué politiquement. Et donc à partir de là, ce Nouvel Hollywood, il est aussi nourri de ses aspirations à la fois qui sont véritables, parce qu'il y avait déjà quand même pas mal de thèmes qui étaient toujours assez sous-jacents et qui détournaient le système. Là sont arrivés de manière beaucoup plus frontale, je trouve. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et puis il y a aussi toute la technique avec ces caméras plus légères et ces pellicules aussi qui captaient mieux la lumière des extérieurs, qui leur ont permis d'aller à la rencontre de la société américaine telle qu'elle était. Donc là c'est une véritable rencontre aussi avec le territoire américain et avec ce que l'Amérique véhicule de manière très terrienne.
Les évolutions judiciaires ont permis de changer un système fondamentalement. Il y a une évolution technique, mais moi, cette question du Nouvel Hollywood, ça m'intrigue parce que je me demande, est-ce que c'est une vraie labellisation, un vrai mouvement? Ces personnes comme Arthur Penn, Cassavetes, Friedkin, Coppola, est-ce qu'ils ont déjà quelque chose en commun, ou est-ce qu'on les a un peu tous mis dans le même panier parce qu'ils arrivaient au même moment véritablement?
C'est vrai que quand tu évoques tous les noms que tu as égrenés tout à l'heure, on a une véritable vision d'auteur à chaque fois, des auteurs complets quand même qui écrivent, qui travaillent travaillent la lumière, qui réalisent, qui sont de grands narrateurs, qui sont de très bons directeurs d'acteurs. Enfin,
qui cassent les codes, même... qui bouleversent effectivement les codes et les structures de narration et plein de
politique.
Choses.
Ils s'inspirent tous du Hollywood, de l'âge d'or d'Hollywood, parce qu'ils veulent des films qui soient dans un très bel écran. Et en même temps, ils sont connectés à la société. Donc, je pense que là-dessus, on ne peut pas nier que Friedkin, que De Palma, que Scorsese, tout comme Arthur Penn ou Sidney Lumet, ne parlent pas de leur époque de manière vraiment très, très franche, très, très forte, et en même temps affirment une véritable voix d'auteur.
Et là, le réalisateur redevient un auteur. Le cinéma redevient, pour peut-être la première fois depuis très longtemps, un art au-delà d'être un produit. Et c'est un retour comme ça au cinéma art et au réalisateur auteur qui avait disparu un peu de l'industrie depuis quand même assez longtemps, oui. Véritablement, voire même depuis peut-être le début, je dirais. On dit qu'il réinvente les techniques et les façons de faire et qu'il raconte de nouvelles histoires aussi, de nouveaux personnages. On l'a vu avec le lauréat et Bonnie and Clyde. C'est oui. Des gens qui se posent beaucoup de questions sur où est-ce que je vais, quel est mon rôle, est-ce que je suis vraiment un héros, est-ce que j'ai envie d'être un héros. Et puis les fins sont jamais forcément très heureuses. Est-ce qu'un film doit forcément se terminer par une happy end? Qu'est-ce qu'une happy end? Beaucoup de questions sur... bref, simplement rééduquer le spectateur à qu'est-ce que c'est une histoire et quels sont les héros des histoires. Et il y a peut-être de nouveaux héros à raconter. Le lauréat, moi, c'est un de mes films préférés. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai été frappé, mais genre une épiphanie par la beauté de ce film. Et je trouve que c'est un film flottant. La narration se laisse flotter pour, comme s'il disait au spectateur, tiens, regarde, je t'ai donné quelque chose à manger en termes de pour réfléchir. Je vais te laisser une séquence pour digérer ça, et après on en parle. Et la fin, effectivement, du lauréat, où les deux personnages sont dans ce fond du bus. Et se regarde, et puis regarde la caméra en disant « Et maintenant, quoi ?» C'est une sorte de magnifique note d'intention à cette idée de faire des personnages en recherche des anti-héros et des intrigues qui sont plus des études de personnages que des vraies histoires narratives.
Non, mais c'est ça. C'est effectivement, moi, je ressens à peu près la même chose. Et c'est là où l'influence de l'école européenne est aussi forte. Quand on voit Blow Up, c'est un film qui a beaucoup marqué son époque, et qui notamment a amené ces héros anti-héros dont on doute tout le temps. Enfin, quand David Hemmings prend en photo, du coup on n'est jamais sûr de ce qu'on voit véritablement, et le personnage qu'on voit, pareil, on n'est jamais sûr de qui il est véritablement. Ouais. Est-ce que c'est un salaud, est-ce que c'est quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Enfin, tout ça est très troublant, et Anthony viendra faire Profession Reporter avec Jack Nicholson un peu après, et ça c'est une espèce de film du nouvel Hollywood, donc
oui,
c'est
oui,
ça
qui... très épuré, Zabriskie Point après qui va être pareil,
c'est ça.
Tu parlais du coup de d'inspiration européenne, tu me tends une perche magnifique parce que je vais mettre un petit extrait de Bonnie and Clyde.
Parfait.
Et on va pouvoir effectivement parler de ces inspirations européennes.
This is Davis, we work this place.
How you? This here's Miss Bonnie Parker.
Glad to meet you.
I'm Clyde Barron.
Clyde.
We rob banks.
Je suis Clyde, elle est Bonnie, et on braque des banques. C'était un extrait du coup de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Bonnie and Clyde, c'est drôle parce que c'est un film qui, et je l'ai appris en lisant un livre que je vais conseiller à la fin, mais c'est un film c'est un projet donc qui est réalisé par Arthur Penn, mais qui a été proposé avant d'être réalisé par Arthur Penn, qui a été proposé à Truffaut et même à Godard avant d'être récupéré par Warren Beatty à Arthur Penn. Et tu parlais effectivement du fait que ces films-là avaient des inspirations européennes, et c'est marrant de se voir que l'origine d'un film comme Bonnie and Clyde a des origines, ben, ça aurait pu être un film de Godard véritablement. On a commencé à l'évoquer, hein. Quoi, le nouvel Hollywood s'inspire du coup de cinéma européen à ton sens?
Je pense que c'est dans une espèce d'énergie, parce que après je me méfie toujours du fait de brandir la nouvelle vague comme la rampe de lancement du nouvel Hollywood. C'est vrai qu'il y a une
c'est
part
plus compliqué que ça, oui.
Oui, parce que Godard, je pense effectivement. Or Truffaut, bon, c'est un peu, il y a une énergie effectivement, surtout avec les 400 coups. Je pense que c'est là pour le coup, je pense que c'est un film qui a vraiment marqué, parce qu'il y a une espèce d'ouverture, il y a une sincérité, une cruauté, une crudité vraiment dans le propos et aussi dans la réalisation, et puis dans le jeu des acteurs, dans la diction. qui vraiment a mis un coup de pied dans la fourmilière et par rapport au nouvel Hollywood où les acteurs on s'en sentait quand même des voix plus profondes, bien placées. Là, quand on entend par exemple Dustin Hoffman avec sa voix plus nasillarde, avec son physique quand même assez particulier, on voit bien puisque tous les autres opposants qui courtisent Catherine Ross sont tous blonds et ressemblent à des Beach Boys, donc c'est assez drôle ce contraste. N'empêche que je pense que là-dessus il y a quand même le fait de casser les héros, il y a aussi cette
de poésie d'imperfection, quoi, une poésie de où voilà, de ériger d'autres symboles et l'imperfection comme nouvelle beauté.
En tout cas, d'amener des personnages qui sont peut-être plus proches de la réalité et qui sont pas uniquement ceux qui constituent la société américaine telle qu'on veut les voir à la télévision ou telle que la télévision les vend. Donc une fois de plus, on en revient à la télévision qui sert de contre-exemple plus que le grand cinéma de Ford ou de Hawks que ces réalisateurs-là aimaient beaucoup, je pense. Et là, il y a ce geste artistique qui est quand même beaucoup plus prononcé et qui vient à la fois, je pense, du néo-réalisme, aller dans la rue et puis filmer l'Amérique telle qu'elle est, et puis aussi cette influence de la nouvelle vague, cette énergie, moi je pense que c'est ça. Puis le Godard, il y a aussi cette science du montage qu'a Godard, qui est quand même assez génial, que personne ne fait à part lui, surtout à l'époque, enfin, arriver à faire dialoguer autant de scènes.
Et puis moi, au-delà de la forme, ce que je trouve fou, c'est que quand tu regardes effectivement un film de la nouvelle vague, ou on va dire de cette époque-là, des fin 50, enfin début 60, même où un Antonioni, c'est beaucoup de gens qui parlent, qui discutent, c'est des gens qui cherchent quelque chose, qui sont en recherche, qui sont en discussion de où est-ce qu'on va, et il n'y a aucune certitude. C'est, pour moi, le nouvel Hollywood, c'est un mouvement qui va dire aux gens et au cinéma hollywoodien qui était très dans le « voilà votre héros, voilà votre méchant, voilà votre histoire », qui est en train de dire aux gens non, la vie, c'est pas ça. La vie, il n'y a pas de certitude et il n'y a que des questions et on essaye juste d'avancer dans une direction sans savoir vraiment quel est le point final de cette histoire-là. Et c'est peut-être le point commun que je trouve entre cinéma européen et cinéma américain, c'est qu'ils disent tous les deux, regardez maintenant, c'est un monde qui a perdu ses certitudes. Alors peut-être, effectivement, comme tu le dis, il y a eu la guerre du Vietnam aux États-Unis et c'est peut-être une Amérique qui est qui commence à prendre le chemin du désenchantement.
Ouais, je pense que ça a commencé quand même déjà avec l'assassinat de Kennedy. Je pense que c'est assez fort et la fin de Bonnie and Clyde rappelle quand même cette violence et le fait qu'on ait des images qui soient hyper marquantes et qu'on s'en souvienne toute sa vie. Je pense que quand on a vu Bonnie and Clyde, on a ce souvenir terrible de voir, bon, eux aussi ont donné la mort, mais c'est bien pas sûr montré de la même façon. Là, c'est vraiment une espèce d'assassinat, de déchaînement en bonne et due forme, et qui du coup devient choquant pour nous et qui nous fait prendre parti pour des voleurs de banque. Donc c'est assez pervers, c'est trouble, mais c'est bien parce que ça fait réfléchir et on se dit que les choses sont jamais aussi simples qu'on voudrait bien le voir. Donc ça, c'est assez génial.
Du coup, en 80, la fin de la récré, les producteurs reprennent le contrôle et l'ère de l'auteur américain se termine. C'est assez ironique d'ailleurs parce que la fin du Nouvel Hollywood est également aidée par le fait que quelques années plus tôt, en 75, en 77, il y a deux films, Les Dents de la Mer et Star Wars, qui lancent du coup une nouvelle ère encore qui va être l'ère du blockbuster dans laquelle on est encore aujourd'hui. Et cette ère du blockbuster a donc été démarrée par des cinéastes du Nouvel Hollywood comme Spielberg et Lucas. Si vous voulez creuser effectivement, cher auditeur, la question de ce nouvel Hollywood que l'on a discuté avec Gérald dans ce premier thème, je vous invite à lire un ouvrage qui est effectivement, c'est un classique, qui est une évidence à ce niveau-là, qui s'appelle du coup tout simplement Le Nouvel Hollywood de Peter Biskind, qui est un peu la référence sur le sujet.
Et c'est bien de comparer après avec de compléter et de comparer aussi certains points de vue avec le livre édité par Jean-Baptiste Auret, écrit par Jean-Baptiste Auret, publié au Cahier du cinéma sur les années 70. Il y a une bibliographie qui est passionnante et puis aussi une filmographie qui est tout à fait incroyable.
Et bien écoutez, ce premier thème touche à sa fin et on se dirige sans plus tarder vers notre second thème.
Thank you.
cette musique atypique, un peu étonnante, un peu peut-être presque alien véritablement, c'est celle de François de Roubaix et du film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, un film donc également de cette année 67. Alors, Le Samouraï est au cœur de notre second thème. Qu'est-ce que c'est Le Samouraï ? C'est l'histoire de Jeff Costello, qui est un tueur à gages solitaire et qui va se faire remarquer au moment où il quitte la scène de son dernier crime. Il va se faire remarquer par un témoin et donc il va être suspecté par la police. On va le suivre ses pérégrinations, justement, alors qu'il est suspecté par la police, qui va tenter de mettre la main dessus. Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, avec donc Alain Delon dans la peau de Jeff Costello, de ce fameux samouraï, sorti en 1967. Toi, tu te souviens la première fois que tu as vu Le Samouraï de Jean-Pierre Melville ? C'est toujours une expérience un petit peu particulière de voir
ça. Oui, je l'ai vu, je devais avoir 10 ans, je pense, sur les conseils de mon père.
Le Samouraï à 10 ans.
Donc, je me souviens effectivement, oui, de manière très forte de cette... du ton et du rythme, vraiment, c'est ça qui est très déroutant de prime abord. C'est que quand on n'identifie pas forcément tous les codes qu'il peut y avoir dans le film, on est quand même happé. C'est vrai qu'on suit Alain Delon, en fait. C'est un film, pour nous, au début, c'est pas un film de Jean-Pierre de Melville. Quand on a 10 ans, c'est un film d'Alain Delon.
Et pour les gens qui ne voient pas. Qui visualise pas ce qu'est le samouraï, c'est quoi ? C'est donc un polar. C'est un film avec des gens qui ont des imperméables et des chapeaux. Et c'est un film effectivement d'enquête et de tueur à gages et
de poursuite
véritablement.
Une poursuite assez incroyable quand même qui dure une bonne partie du film. Au début, on s'en rend pas forcément compte, mais Alain Delon est poursuivi, donc Jeff Costello est poursuivi une bonne partie du film, à la fois par la police et puis après par ceux qui ont commandité le crime qu'il a commis. Donc il y a une grande poursuite et le rêve de Melville, il le racontait dans ce livre d'entretien avec Ruino Guerra, c'était de faire un film avec Yves Montand qui serait uniquement un film de poursuite, c'est-à-dire de A jusqu'à Z, on ait une poursuite
c'est un
complète.
C'est un film de poursuite véritablement.
Ouais, et qui rencontre à la fois les codes du film noir américain, puisqu'il s'inspire quand même du coup de l'escalier, un film de Robert Wise, qui visuellement est totalement incroyable, un film qui est très musical aussi, donc il y a beaucoup de musique dans le samouraï, il y a à la fois beaucoup de silence, très peu de dialogue. Ça, c'est aussi magnifique d'arriver à une épure pareille lors d'un film de poursuite. Et puis, c'est un film qui joue... censément avec les codes du film de samouraï, mais en fait je trouve pas tant que ça. C'est une inspiration plus philosophique, je pense, qui est apportée au film, plus que véritablement codifié cinématographiquement.
Et après, je vais avoir un sonore de Melville qui va expliquer ces deux raisons pourquoi il a appelé Le Samouraï. Je vais le passer, tu verras, ça va être rigolo. C'est marrant parce que tu parlais des codes du polar. Effectivement, c'est un film qui va prendre les codes du polar américain. On peut penser à Bogart, etc. Ses chapeaux, ses cigarettes, ses imperméables, et qui va les prendre et qui va les transposer à la France. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue où Tarantino expliquait qu'il adorait les films de Melville, notamment parce que c'est quelqu'un qui avait Melville, notamment avec Le Samouraï, à partir du Samouraï, repris ces codes-là américains et les avait mis à Paris. Et au lieu que ce soit Hell's Kitchen, ça devient Montmartre. Et au lieu que ce soit des Cadillac, et ben c'est des Renault et c'est des Peugeot. Et ils transposent ces codes. Et il disait, Tarantino aussi, que ben ces imperméables et ces chapeaux, ça devenait des armures pour les personnages. Et quand on les voyait dans une scène, c'était tout aussi imposant que Bogart, etc. Avec ses imperméables et ses cigarettes et ses chapeaux, ça faisait des véritables personnages armures.
C'est à la fois une armure et puis aussi une espèce d'enveloppe corporelle de fantôme. C'est ça que je trouve assez exceptionnel dans le film, c'est que plus on avance et plus on voit Delon qui se décompose, qui se décharne. Même si à l'époque il était très très mince et qui a un aspect de plus en plus cadavérique au fur et à mesure du film, et il n'est pas le seul. Même les autres personnages ont des traits de plus en plus creusés, ça c'est assez incroyable d'arriver à ça. Donc on se demande déjà si on n'est pas chez les morts au début, ça c'est quand même
c'est vrai que c'est un peu éthéré comme
espace. Pour être posé.
Anti-réel. aussi réaliste. Quoi,
et puis ce que je trouve aussi exceptionnel, c'est le fait qu'en ayant posé des codes américains dans le Paris, qui est à la fois un Paris des années 60, mais aussi un Paris futuriste, puisque l'immeuble où est Nathalie Delon, donc la compagne d'Alain Delon, donc Jeff Costello, et une espèce d'immeuble un peu futuriste qui évoque plus ce qu'on va voir en termes d'architecture dans les années 70 que ce qu'on voit dans les années 60. Alors ça, je trouve ça génial d'arriver à faire ça.
Ouais.
Et puis beaucoup de choses se passent autour des Champs-Élysées, qui est quand même un quartier assez assez riche, assez traditionnel, et on le reconnaît pas forcément. Alors ça, c'est quand même très très fort. Il y a beaucoup de choses qui nous renvoient à la Seconde Guerre mondiale et aux années 40. Par exemple, quand il donne le numéro de téléphone de Nathalie Delon, il commence par MacMahon. Or, ça n'existe plus depuis 1953.
Ouais.
On était passé exclusivement des numéros et non pas des codes qui les rattachaient à des quartiers. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui rappellent le Paris et la France de la Seconde Guerre mondiale ou juste après la Seconde Guerre mondiale.
Ce qui n'est pas étonnant parce que Melville est quelqu'un qui a été... Jean-Pierre Melville, pour ceux qui ne savent pas, fait partie de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il a ce passif-là qui traîne et qui rejaillira notamment dans un film.
C'est L'Armée des Ombres.
L'Armée des Ombres, effectivement.
Et on se demande un peu si Delon n'est pas un ancien militaire, enfin Jeff Costello n'est pas un ancien militaire ou un ancien résistant et qui amènerait sa connaissance du terrain. Des armes, parce qu'il dit à un moment donné il connaît Paris comme sa poche, il connaît le métro comme sa poche, donc on se demande si en ayant tenté d'échapper aux Allemands ou à la police française pendant les années 40, finalement c'est pas là qu'il a construit une espèce d'énorme bagage qui lui permet de s'en sortir comme un poisson dans l'eau après dans les années 60. Tout ça est vraiment très très troublant.
Tu dirais que, parce que là on parle effectivement comme quoi le samouraï est un polar, comme quoi c'est un polar qui va s'inspirer du polar américain, donc d'une certaine manière on pourrait dire que c'est un polar qui réinvente des choses. Est-ce qu'on pourrait tirer la corde jusqu'à dire que Melville, avec le samouraï, va réinventer le genre du polar?
Ah oui, je pense, parce que Melville a quand même après inspiré beaucoup beaucoup de d'auteurs, je pense, aux États-Unis très vite. Moi, quand je vois les films de Robert Altman comme Le Privé par exemple en 73, même si l'influence elle est pas explicite, ouais, j'ai l'impression de voir ce côté un peu détaché, non plus, enfin
très monolithique, avec il se déplace, ouais, dans son appartement.
Oui, oui, y a pas mal de choses qui me font penser évidemment, oui, je pense à Raymond Chandler, je pense à Jane Houston quand la ville dort, mais je pense aussi à Melville. Je pense qu'il y a eu vraiment un avant et un après Melville. Et puis après, sans parler du cinéma asiatique des années dans les années 80, on trouve un peu Melville. Par exemple, même dans les années 70, quand on voit le film de Walter Hill, The Driver, qui est un film qui est purement génial, avec Ryan O'Neill, sûrement son meilleur rôle, et puis Isabelle Adjani, on ne peut pas s'empêcher de penser à Melville. Donc, continuellement, quand il a essaimé ses traits les plus marquants dans les années 70, 80 peut-être un peu moins, et puis il a explosé dans les années 90 avec fin des années 80 même avec les polars hongkongais, et qui après ont rejailli aux États-Unis avec Tarantino, qui s'en est beaucoup inspiré, et aussi de Melville évidemment, parce que lui il remonte toujours à la source. C'est quand même un grand cinéphile qui sait reconnaître ses influences.
T'es en train de dire que finalement effectivement tout ça a fait ce qu'on appelle un full circle. C'est-à-dire que Melville a été inspiré du cinéma américain, du polar américain, et il a lui-même effectivement inspiré l'Amérique et le cinéma hongkongais, dont s'est inspiré les États-Unis, pour finalement effectivement... Donc Melville aurait lui-même réinspiré le cinéma américain comme le cinéma le fait si bien. J'adore ces vases communicants dans le cinéma, et comment tout le monde c'est un délice à chaque fois quand on remarque, et comment on se rend compte que tout le monde se prend des trucs et que c'est super, et c'est magnifique. On parle de Melville et on va parler de sa relation toute particulière avec Alain Delon, bien sûr, puisque le samouraï signe leur premier film ensemble. Mais avant de ça, et pour bien continuer dans ce second thème, un petit sonore du maître en personne.
Je crois que le titre m'est venu de deux choses différentes. La première, c'est que j'ai trouvé une fois à Delon un petit air japonais, un beau japonais, c'est vrai. Il serait très facilement maquillable en japonais. Bon, disons que ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est une phrase du Bushido, qui est la Bible du samouraï, qui est le livre qui règle la vie des samouraïs, qui dit qu'il n'y a pas de plus grande, de plus profonde solitude que celle du samouraï.
Ah là là, Jean-Pierre Melville qui nous explique effectivement les deux raisons pourquoi il a nommé son film Le Samouraï, parce que c'est vrai que qu'on le voit comme ça, c'est un polar français, pourquoi il s'appellerait Samouraï. Et voilà, Jean-Pierre Melville nous donne ces raisons-là. Le Samouraï donc a en son centre un personnage, Jeff Costello, et un acteur, Alain Delon. Le Samouraï signe donc la première collaboration entre Jean-Pierre Melville et Alain Delon. Les deux hommes tourneront ensuite ensemble dans Le Cercle Rouge en 1970 et dans Un Flic en 1972. Donc trois films qui vont changer et le cinéma français, on en a parlé au début, et aussi, mine de rien, la carrière d'Alain Delon. Moi j'ai envie de poser une question, qu'est-ce que Melville va changer dans Alain Delon? Qu'est-ce que c'est Alain Delon avant Melville et qu'est-ce que c'est Alain Delon après Melville?
Je pense que Delon, grâce à Melville, va être imposé. Je pense que c'est là où Delon a été très fort, hein, qu'il a réussi à comprendre que Melville allait lui donner cette stature, hein, parce que quand Melville filme Delon, il y a à la fois une fascination pour le personnage et puis il y a cette force iconique qui lui donne. Évidemment dans Le Samouraï où c'est très très prégnant, mais aussi quand on pense au Cercle Rouge, même s'il n'en est pas le héros principal, ouais. Il est quand même magnifié, il a une moustache, donc c'est assez drôle de voir qu'il a changé un peu ce personnage, mais il lui donne quand même une épaisseur assez exceptionnelle. Et dans Un Flic, là on est vraiment passé de l'autre côté, on sait d'entrée qu'il est mort, c'est un personnage qui est en colère en permanence, et il lui donne cette force à chaque fois, cette force magnifiée, où Delon apparaît vraiment comme une icône de cinéma pur. Il dépasse vraiment tout cet aspect humain, tout en étant ancré, puisqu'il est à la fois très pragmatique, que ça soit Un Flic où il joue un flic de la rue, ou Le Samouraï où il joue un tueur qui se base sur des choses assez primaires pour réussir ses missions. Il lui donne une force exceptionnelle à chaque fois, et le moindre de ses gestes prend une ampleur dramatique et d'une précision exceptionnelle. Le fait de remettre son chapeau, de compter les clés, de donner les cartes, d'allumer sa cigarette, tout chez Delon est vraiment magnifié.
T'en irais à dire que avant même Plein Soleil, avant même Le Guépard, le premier façonneur de l'icône Alain Delon, ce serait Jean-Pierre Melville?
Alors, je pense qu'il a ajouté en fait une nouvelle carte à la puissance de Delon, parce que quand on voit Delon qui se balade sur le marché dans Plein Soleil, qui goûte des poissons.
C'est phénoménal, c'est phénoménal.
C'est incroyable d'arriver à filmer Delon qui se déplace et qui, mais de manière qui paraît assez simple, en caméra portée, dans un marché. C'est quand même fou d'arriver à donner une puissance à un personnage et à une icône de cinéma par ce biais. Mais chez Visconti, il est quand même génial parce qu'il est très profond, très politique, manipulateur.
Et en même temps, c'est toujours cette belle gueule. C'est toujours cette belle gueule.
Oui.
Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'avec Melville, cette belle gueule un peu de ses premières années du cinéma français, elle va twister et ça va devenir plus seulement une belle gueule, mais ça va devenir une sorte de un visage monolithique et surtout solitaire. Il le dit, et Melville, il dit, moi, je veux faire un personnage solitaire. La rencontre avec Melville va lui faire embrasser cette nature d'homme solitaire qui va d'ailleurs continuer à entretenir dans le reste de sa carrière. Parce que Alain Delon, c'est une grande fuite vers moi tout seul et la solitude. Et il va tourner de moins en moins avec des gens et il va entretenir ce mythe-là de l'acteur un peu le loup solitaire du cinéma français.
Oh oui, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis. Il a cette espèce d'aspect de loup qui, effectivement, avance à pas feutrer. Je pense que ça a commencé avec Alain Cavalier et L'Insoumis, un film que Delon avait produit en 62, qui est un film vraiment très très bon, à l'époque où Alain Cavalier faisait de véritables fictions, qui est un film politique, qui est un film qui parle, là, pour le coup, de l'époque. On parlait du Nouvel Hollywood tout à l'heure, et c'est un film qui s'inscrit pleinement dans l'époque et qui contrebalance toujours l'image de Delon qu'on voit comme un homme droitier, qu'on voit comme un fasciste. Je pense que c'est totalement faux. Et quand je vois L'Insoumis, qui est un film anti-guerre d'Algérie, qui a été fait en 1962, je pense, donc juste après le début de la guerre, qu'on n'appelait pas la guerre à l'époque, mais les événements, c'est vraiment très très fort hein, d'arriver à faire ça. Et il filme de long, souvent dans les coins, souvent seul dans des pièces, et il l'isole véritablement. Il n'en fait pas un homme d'armée, un homme de groupe, il en fait un loup solitaire. Comme tu disais tout à l'heure, ses déplacements sont à la fois puissants et en même temps un peu comme un danseur, un peu comme ouais. Al Pacino sera après, par exemple, chez Brian De Palma, dans L'Impasse. Donc il y a cette. Et Delon, je crois que c'est Jean-Marc Lalanne qui lui a posé la question dans Les Inrocks, qui lui demandait s'il avait pris des cours de danse, et lui dit non, ça venait de la boxe. Et effectivement, c'est plus le boxeur qui est dans le ring et qui se déplace pour à la fois marquer son territoire et puis aussi investir le terrain et être capable d'affronter son adversaire, que, à mon avis, le danseur. Mais il y a un peu de ça aussi, ces déplacements sont quand même assez félins et mutique, et puis aussi opaque. Et on parlait tout à l'heure de Dustin Hoffman, dont on connaît jamais véritablement les sentiments, les ressentiments, les expressions dans le lauréat. Et chez Delon, alors là, l'opacité devient complètement transparente, quoi. C'est fou, on a l'impression d'entrer dans ce personnage sans le comprendre. Ça, c'est magique d'arriver à faire ça. Enfin, il y a très peu de réalisateurs pour moi qui arrivent à atteindre un tel niveau, et on a l'impression de connaître Delon parce qu'on connaît les codes, parce qu'on connaît le film noir, parce qu'on connaît Alain Delon, et en fait on a beau être vers lui, on n'arrive à rien déceler. Ça, c'est quand même magique d'arriver à faire ça.
À nous deux, on a réussi à encadrer Delon. Je trouve ça magnifique. Non, mais ça, tu as donné des clés magnifiques, effectivement, et notamment le film de Cavalier. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça me permettra de le revoir avec un autre œil. Mais je n'y avais pas pensé. C'est une formidable perche que tu me tends là. C'est assez magnifique. Pour revenir au Samouraï et à Melville, et pour peut-être clore ce second thème et avancer, toi, tu verrais des héritiers de Jean-Pierre Melville aujourd'hui, parce que je trouve que le cinéma de Jean-Pierre Melville est tellement atypique et tellement ancré dans une époque que aujourd'hui trouver un héritier, déjà, donc déjà des gens qui font des bons polars en France, ça c'est assez compliqué. Mais alors, en plus des héritiers de Jean-Pierre Melville,
si, peut-être un peu, je pense que ce sont des influences qui sont sous-jacentes, comme Fabrice Duvels ou Éric Vallette, qui ont des influences de Melville, mais qui ne sont pas aussi marquées. Alors après, c'est tout à leur honneur, parce qu'effectivement, ils ne font pas du sous-Melville en disant on est français, on fait des polars, donc on va faire du sous-Melville.
Et du coup, Fabrice Duvels, Éric Vallette, effectivement, c'est des très bonnes pistes, mais j'ai envie de dire que Melville appartient à son époque et appartient à son style, et que finalement, le seul qui peut faire du Melville, c'est Melville. Voilà qui clôt ce second thème de ce septième épisode d'Année Lumière, et nous allons nous diriger vers le troisième et dernier thème de cette émission. C'est parti. Cette musique endiablée, très 67 d'ailleurs, très 1967, vient du film Peppermint Frappé de réalisateur Carlos Saura, qui raconte l'obsession de Julian, un radiologue, pour Elena, la femme d'un de ses amis. Et après avoir été repoussé plusieurs fois, il va diriger son obsession donc pour Elena sur son assistante Anna, qu'il va commencer à vêtir comme la fameuse Elena, et tout ça va compliquer la situation. C'est donc un film de Carlos Saura qui aura l'Ours d'argent au Festival de Berlin et qui est avec Géraldine Chaplin, avec laquelle il va avoir 9 collaborations, dont la plus connue est peut-être Cria Cuervos, peut-être. D'ailleurs, Géraldine Chaplin et Carlos Saura, au-delà de leurs 9 collaborations, au-delà de Peppermint Frappé dont on va parler, ils ont d'ailleurs une relation intime et un enfant hors mariage. Alors, avant de partir sur ce film Peppermint Frappé, ce troisième thème, ce troisième film dont on parle, c'est toujours un petit peu particulier, parce que je demande toujours à l'invité du jour de savoir de ce dont tu voulais parler, et puis on était parti sur un autre film, et puis finalement tu m'as dit non, j'aimerais bien parler de Peppermint Frappé. Pourquoi est-ce qu'on discute de Peppermint Frappé, tout simplement, Gérald?
Alors, il concentre pas mal de thèmes de l'époque, ce côté voyeuriste qu'on observe, qui est à la fois l'héritage d'Hitchcock, et puis aussi l'influence des médias dans les dans la société des années 60 où ils avaient acquis une puissance toute particulière. Quand on pense par exemple aux lauréats, au nombre de postes de télévision qu'on voit dans le film, quand on pense à Bonnie and Clyde où les titres des journaux prennent une importance capitale, on voit que dans 67 on a une toute puissance de la force médiatique qui est soulignée par de nombreux auteurs. Là, chez Carlos Saura, ce qui est assez génial dans son cas, c'est qu'il vient quand même d'un pays qui est soumis à la dictature franquiste, donc un pays oppressé, un pays d'Europe. Donc. Certes, l'Espagne, mais qui est à nos portes, hein, puisque c'est vraiment très très proche, mais un pays avec lequel on partage des valeurs catholiques.
À savoir que du coup, pour cerner en contexte, hein, l'Espagne était donc dirigée par Franco. Hein,
voilà, le général Franco.
Le général Franco de 38 à 75. Mmh. Et donc, il était le pays, l'Espagne était une dictature hein, franquiste, tout simplement, pendant cette période-là. Et du coup, le film sort à ce moment-là.
Et ce qui est assez troublant, c'est de voir qu'un film moderne qui parle de l'époque, qui parle véritablement des années 60 en Europe telle qu'elle pouvait l'être, avec une certaine bourgeoisie qui vit bien quand même, puisque le radiologue a une importance capitale dans le village où il habite. Puis le fait qu'on est dans un paysage limite fantastique, parce qu'on ne croise quasiment personne en fait à chaque fois.
Ouais.
Ça, c'est assez troublant de voir ce désœuvrement, cette absence de personnes dans les villes, ces roches qui sont toutes puissantes et qui donnent une véritable force picturale au film. Je trouve ça vraiment troublant de voir un film, de penser à cette dictature qui était proche de la nôtre et de voir qu'ils arrivent à faire que Saura a réussi à imposer des thèmes très forts comme la manipulation, ses influences hitchcockiennes. Et pour moi, c'est une espèce de réponse à Blow Up dont on parlait juste avant. Parce qu'il y a le thème de la manipulation, il y a le thème du voyeur, il y a le fait de s'approprier une femme, deux femmes dans le cas du film. Il y a tout ce jeu pervers.
La question du double.
Question du double, exactement, avec la brune, la blonde. Alors certes, ce sont des clichés qui viennent d'Hitchcock, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Brian De Palma, notamment lors d'une scène où la caméra tourne à 360 degrés autour des deux personnages, comme De Palma va le faire plusieurs fois, et on nous parle tout le temps d'Hitchcock, mais je pense qu'il y avait aussi une grande influence de Carlos Saura, qui était quand même le grand représentant de la culture espagnole et qui l'a été pendant très longtemps, parce qu'après il a fait une trilogie autour de la musique espagnole, et c'était vraiment le grand représentant de la culture espagnole dans le monde. Donc,
étonnant, parce qu'on a lancé ce thème sur le film Permis de frapper, qui est quand même un film espagnol, réalisé en Espagne par un réalisateur espagnol, Carlos Saura. Et on lance le thème avec une musique qui n'est pas du tout espagnole, qui est une musique américaine. Mais en tout cas, c'est une musique qui n'est pas du tout typique espagnole et qui renvoie vers du coup un univers plus peut-être de occidental, américain, véritablement. Le film pouvait être vu comme une sorte de métaphore de l'Espagne franquiste qui regarde toujours vers l'Ouest et qui regarde vers cet Occident pop qui bouge, qui danse, qui s'amuse. Et qui l'adore, alors que lui, comme le personnage de Roulian, lui, il reste de son côté, il ne peut pas s'amuser avec eux, il reste bloqué dans ses conventions en les adorant de loin, quoi, véritablement.
Oui, je pense que moi aussi, je ressens un peu le film comme ça, parce qu'il est voyeur, il prend en photo cette jeune femme qui effectivement profite pleinement de l'époque, qui a l'air de se soucier assez peu de ce qui se passe autour d'elle, de la pauvreté, de l'oppression, pour profiter de l'argent qu'amasse son mari, puisque son mari est un businessman et passe sa vie à parler de commerce, donc d'affaires qu'il va faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis visuellement, il y a une espèce de rencontre de la pop, avec un montage quand même assez dynamique, beaucoup de plans de coupe qui à chaque fois sont vraiment très troublants, parce que ils nous font voir pas mal de choses différentes suivant les points de vue. Un coup on est le mari, un coup on est le personnage du cardiologue, un coup on est Anna, donc la jeune assistante qui est maltraitée.
D'ailleurs, Elena et Anna sont deux personnages bien distincts dans le film, mais ils sont tous les deux joués par Géraldine Chaplin. Hein. Une fois elle est en blonde et une fois elle est en brune, et ça participe de cette obsession de Roulian pour pour cette idée de la femme, en fait, cette idée de ce personnage féminin qui est joué donc dans le film par Geraldine Chaplin, les deux personnages. Et
donc ça nous amène à chaque fois à cette lecture assez pop, ouais, qui fait penser à Antonioni, qui fait penser aux Scopitone qu'on pouvait voir à l'époque dans les cafés, même si c'était pas aussi répandu évidemment que des vidéos YouTube maintenant ou des clips comme dans les années 80. N'empêche que il y avait quand même une influence de la musique dans la vie de tous les jours qui était, je pense, très très forte. Et on voit beaucoup de choses comme ça, donc de cet Occident qui arrive dans une Espagne complètement désœuvrée, vide. Ils eux-mêmes vont dans une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps, ressassent des souvenirs. Donc on se demande s'ils ne parlent pas d'une Espagne qui n'a jamais existé. Enfin, on se pose plein de questions à la fois sur notre culture européenne, en le regardant maintenant en tout cas, et de ce que ça pouvait être à l'époque. Je pense qu'il y avait un ancrage très très fort dans une Espagne appauvrie, alors que les richesses de l'Europe et donc de cette explosion des Trente Glorieuses étaient à leur porte. Donc je pense que ça devait être très troublant.
C'est un film beaucoup sur la confrontation entre l'Europe et les États-Unis, et surtout entre effectivement cette Espagne franquiste, on va dire très très gangrénée, cette vague de désirs réprimés, cette sorte de chape religieuse autour, et puis tout ça. Et en face de lui, Julian, il a des personnages qui sont le symbole même de l'Ouest, cette libération dont tu parlais. Et donc c'est un film sur des personnages dans des maisons qui discutent, etc. Mais c'est bien plus que ça, puisque c'est plutôt un pays, l'Espagne franquiste, qui regarde un autre pays, les États-Unis, ou en tout cas une autre culture qui arrive au même moment, et c'est bien plus que ça. Ouais, c'est assez saisissant.
Tout ça est toujours beaucoup plus fort et beaucoup beaucoup moins cliché que ce qu'on pourrait en dire à chaque fois. Et quand on voit la réalisation visuelle et formelle, elle est beaucoup plus aboutie que ce qu'on pourrait en attendre quand on lit le synopsis du film sur le papier.
Ben voilà, je sais pas ce qu'il vous faut le plus si vous voulez voir Peppermint frapper de Carlos Saura, mais je crois que tout est dit. En tout cas, c'est un film qui est extrêmement riche et qui vaut le détour. Moi, je l'ai vu du coup pour l'émission, et effectivement, je suis content de l'avoir vu. Je suis content que tu l'aies proposé, en tout cas pour qu'on en discute, parce qu'effectivement, c'est un film qui en dit beaucoup sur plein de choses, et qui, au-delà de son apparence et son histoire, un petit peu comme tu dis, son synopsis de base un peu particulier, recèle énormément de niveaux de lecture et d'intérêt au-delà. Et voilà qui conclut notre troisième et dernier thème, et on va aller sans plus attendre vers notre tour du monde des autres films de 1967. 1967, c'est donc les films dont on a parlé, mais 1967, c'est également l'année des 12 salopards, du Livre de la jungle de Disney, de La Belle de jour de Buñuel, d'un James Bond, On ne vit que deux fois, du Bal des vampires de Polanski, du premier long de Martin Scorsese, Who's That Knocking at My Door, de Playtime de Jack Tati, du superbe Point Blank de John Boorman, des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, du premier long de Friedkin, William Friedkin, Good Times.
Good Times, ouais, avec Sonny Encher.
Exactement, d'un Visconti, L'étranger, de Mouchette de Bresson, d'un Robert Altman, Objectif Lune. Bref, énormément de films. On n'a évidemment pas le temps de tous les évoquer, mais on va quand même prendre cette petite espace qu'est le tour du monde habituel pour parler d'un, deux ou trois films qui nous touchent particulièrement. Quand je t'ai demandé quel film dont tu voulais parler dans ce tour du monde, tu m'as parlé d'un film que je qualifierais d'objet filmique non identifié, un film japonais. Oui. De quel film as-tu nous parlé, Gérard?
Donc, de La marque du tueur de Seiji Suzuki, qui est un film visuellement, narrativement et émotionnellement, je pense, vraiment exceptionnel, parce que c'est une source cauchemardesque d'un parcours d'un tueur. Donc là, on est un peu comme dans Le Samouraï, avec des missions à accomplir. Et la forme est tellement exceptionnelle, à la fois très cinématographique, d'un noir et blanc, mais totalement... totalement hors du commun. Je pense que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de discussion à avoir. On a une force vraiment picturale très déroutante et d'une beauté plastique exceptionnelle. Et puis qui narrativement nous emmène à la fois, avec des constructions de plans fixes, de photos ou alors des mouvements de caméra totalement j'ai l'air surhumain, mais oui, on se demande vraiment comment ils ont fait certains plans vers une histoire qui est là, pour le coup, on parlait de Peppermint Frappé, mais là, le film japonais, donc La Marque du Tueur, est beaucoup plus, là, est beaucoup plus pervers. Hein. C'est les relations
entre les personnages. Oui, parce que l'histoire était quasiment indescriptible. C'est une histoire très même confusante, mais comme tu l'as dit, c'est un objet visuellement, c'est fou. Ça a l'air d'être un film fou.
Bon, c'est un film de Nikatsu, donc la Nikatsu, qui est un des grands studios japonais, qui faisait beaucoup de films et qui en fait toujours, qui produit des films qui sont souvent déroutants, qui ont une patte particulière, visuelle et narrative. Donc c'est vraiment, mais ça c'est un des chefs-d'œuvre de la Nikatsu, parce qu'il y a une, c'est un film qui est indescriptible. C'est
et
vraiment
qui va inspirer d'ailleurs. C'est un film qui, pour l'information, qui va être un flop à sa sortie, qui va être un échec immense, et notamment pour son réalisateur Suzuki, et qui mais qui va avec les années gagner un statut de film culte et qui va inspirer plein de réalisateurs comme Jim Jarmusch ou même d'autres réalisateurs dans le monde de la pub, hein. Comme tu l'as dit, c'est un film très très visuel avec plein d'idées visuelles et plein de séquences complètement folles, et du coup toutes ces idées, toutes ces séquences, toute cette proposition là va inspirer beaucoup de clips, beaucoup de pubs plus tard dans les années 80 et 90.
Bon, on a eu de la chance effectivement que les inspirations viennent d'un tel film, parce que chez Jim Jarmusch par exemple, effectivement il y a cet attrait pour la puissance du visuel, hein. c'est je pense que c'est là-dessus il y a une construction assez magique. Alors on en revient toujours à Melville, parce que Jim Jarmusch aussi adorait Melville, hein, dans ses plans mutiques, ses constructions à la fois simples et très travaillées. Il y a la force de Melville, et c'est étonnant que ça rejoigne autant à la même époque un film comme Le Samouraï. Moi c'est ça qui me, quand on a parlé de l'année 67, tout de suite j'ai pensé à ce film, parce qu'il y a une caisse de résonance totalement folle des deux films, qui sont complètement différents, hein, au niveau de la forme, mais qui en même temps semblent dialoguer à la fois dans deux extrémités, les pures, et puis une mise en scène pop, mais vraiment typiquement japonaise, avec des plans véritablement fous, vraiment une folie cinématographique qui nous fait vraiment plaisir, quoi, pour le coup, parce que c'est un tour de force.
La Marque du Tueur de Seijun Suzuki, ta recommandation, on va dire, de cette année 67, un film à voir absolument, tu dirais, mais qui risque de dérouter, en tout cas qui reste d'être une expérience mémorable.
En tout cas, si on a envie d'aller voir ailleurs et d'être dans un esprit mauvais genre, je pense que c'est vraiment idéal.
Moi, mon tour du monde, il va être moins exotique véritablement, puisqu'on va retourner aux États-Unis pour un film qui me tient très à cœur, puisque c'est un film que j'ai découvert en même temps que le lauréat, un petit peu sur le tard, il y a 2-3 ans. Luc la main froide de Stuart Rosenberg avec Paul Newman. Alors Luc la main froide, Cool Hand Luke, c'est l'histoire de Luke Jackson, condamné à 2 ans de travaux forcés dans un camp de prisonniers pour avoir détruit des parcs-mètres, hein, notamment cette première séquence où on le voit détruire des parcs-mètres alors qu'il est complètement sous et rieur. Mais ce rebelle va tenter plusieurs fois de s'évader et va remettre en cause les conditions de traitement du camp. Bon, c'est un film formidable. C'est un film formidable. Déjà, c'est un film de prison avec un casting en or. Donc, en plus de Paul Newman, qui est formidable et qui est magnifique, on va avoir George Kennedy, on va avoir les jeunes Dennis Hopper et Harry Dean Stanton. On va avoir cette galerie de personnages phénoménale. Et c'est, on parlait du lauréat en premier thème, et je trouve que c'est un film qui est très proche du coup de son époque et de ses thématiques-là, puisque c'est un film qui va être dans la contestation de l'autorité, qui va être dans la contestation d'une sorte d'absurdité du système, qui va être dans le questionnement sur la vie. Paul Newman, c'est un personnage qui, dans Luc la main froide, va beaucoup se poser de questions sur mais pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi je vais là, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc., etc., et qui va être juste en train de dire mais c'est complètement absurde de regarder pourquoi on agit, c'est complètement absurde ce qu'on est en train de faire, et il va lui mettre une sorte de il va pointer cette absurdité là parfois une poésie, parfois par ses yeux bleus fous de Paul Newman qui sont assez sidérants. Bref, c'est un film qui est très proche de son époque et qui est très très beau, qui est très très beau, parce qu'on a les plans de Stuart Rosenberg, mais qui a surtout la photo de Conrad Hall, qui est le chef opérateur de Butch Cassidy et le Kid, et qui va être le chef opérateur de Marathon Man. Et notamment après d'American Beauty et des Sentiers de la Perdition, donc des films de Sam Mendes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le lauréat et dans même Bonnie and Clyde, et c'est pour ça que je relis Luc la main froide à ces deux films-là, c'est que c'est des films qui se permettent des scènes, ce que j'appelle des scènes en dehors, c'est-à-dire des scènes qui font complètement abandon de la narration du film et qui vont juste, le temps d'une séquence, vont être en dehors et vont proposer un moment comme ça, complètement détaché. Et dans Luc la main froide, c'est ce moment où Paul Newman va prendre un banjo et va chanter la chanson Plastic Jesus.
Take it with you when you travel far.
Donc j'adore ces films-là. J'adore ces films qui se réservent des séquences en dehors, qui abandonnent leur narration, le temps de se dire, regardez, on est aussi, le cinéma c'est aussi pour ça, c'est aussi pour donner des moments où en fait on peut juste apprécier ces moments d'image et de son sans suivre une histoire, et c'est juste magnifique. Et là, cette séquence de Paul Newman, les larmes aux yeux, qui joue du banjo, c'est juste formidable. Donc c'est un film d'une immense poésie, avec également une fin douce amère, que je vous conseille vivement. Luc la main froide de Stuart Rosenberg, également sorti en 1967. Voilà, tu as peut-être un autre tour du monde est terminé, mais peut-être que tu as un film que tu as...
Alors, Mario Bava n'a pas fait de film en 1967.
Non, j'ai regardé. Mario Bava. J'ai regardé, malheureusement.
En revanche, on avait passé il y a deux ans à Cannes Classics un film laiton de 1967 Roland Kalnins, qui avait 91 ans et qui était venu présenter le film. Qui s'appelle Quatre chemises blanches et qui est un film sur le rock. On a beaucoup parlé de musique, un film qui avait été interdit donc jusqu'en 1983. En Lettonie, enfin qui à l'époque était l'URSS, et qui est un film qui était un film rebelle, puisque c'était l'histoire d'un groupe de rock qui via la musique cherchait à briser les barrières du pouvoir politique en place. Donc c'était un film qui politiquement était très fort, qui était bien filmé, qui faisait un peu penser au Tricheur de Marcel Carné, pour relier à quelque chose qu'on connaît un peu, en tout du moins en France, et qui nous avait semblé vraiment incroyable sur ce qu'il disait de l'époque, et surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir, un peu comme Pepermine Frappé, qui nous parle de l'Espagne, de voir un film en Union soviétique, de voir concrètement comment ça se passait au niveau de la jeunesse, et puis de la musique. Tu parlais de Luc la main froide, évidemment il y a cette importance de la musique. Vraiment, les années 60, on sent que la musique, elle est connectée à l'époque, quoi. Et pareil dans Le Lauréat, bon, il y a la musique géniale de Simon & Garfunkel, et vraiment à chaque fois elle nous parle, et elle parle de ce que vivent les personnages. Et là, dans ce film, il y avait tout cet aspect rock, parce que c'est des rockers laitons, c'est quand même pas courant, et donc on avait passé ce film qui nous avait vraiment beaucoup plu et qui était annonciateur justement d'un mai 68 qui allait arriver aussi dans les pays de l'Est, bon, réprimé dans la violence, avec beaucoup moins de succès que chez nous et moins d'accords politiques et sociaux, mais en tout cas très très intéressant, un film qui est pas facile à voir, donc contactez-moi.
Voilà, Quatre chemises blanches de Roland Kalnins, c'est ça, hein?
C'est ça, exactement.
Je ne veux pas le mal prononcer, donc qui est également l'une des recommandations de Gérald pour ce tour du monde de l'année 1967, un tour du monde qui donc touche à sa fin, tout comme notre émission, tout comme cet épisode 7, ce dernier de la première saison d'Année Lumière. Merci Gérald, beaucoup d'avoir été mon invité pendant cet épisode sur cette année 67. On a parlé de beaucoup de choses, du Lauréat, de Bonnie and Clyde, du Samouraï, de Carlos Saura, de cinéma japonais avec La Marque du Tueur, de Luc la main froide, et là effectivement même d'un cinéma laiton. Donc merci beaucoup d'avoir apporté tout ça avec toi dans tes bagages, et pour qu'on puisse en discuter encore, merci beaucoup. Je rappelle que tu es le co-auteur d'un livre qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs.
Oui.
C'est ça. Qui est chez quelle édition d'ailleurs, je ne veux pas
Lobster Film.
Lobster Film, effectivement, cette magnifique maison d'édition de l'ami Serge Bromberg.
C'est ça.
Donc n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre-là. Je remercie les auditeurs fidèles d'Année Lumière pour cette magnifique première saison qui s'achève. Rassurez-vous, la seconde saison est déjà en préparation avec une galerie d'invités et d'années déjà bookées, déjà placées, déjà mises dans un calendrier pour être enregistrées dès le début de 2020. Merci beaucoup à vous qui m'avez écouté. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à l'envoyer sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., etc. Ça me fait très plaisir de voir les retours que je peux avoir. Il me reste plus qu'à dire encore une fois merci à Gérald d'avoir été mon invité. Merci Gérald.
Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Salut à tous et à 2020 pour la seconde saison d'Année Lumière. Salut, salut.